Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ensemble jusqu'à 15h, c'est du bonheur, soyez les bienvenus dans notre cabinet de curiosité. À ma droite, Sidonie Bonnec.
Merci Thomas Hugues, à ma gauche, oui c'est assez logique, si je suis à votre droite, vous êtes à ma gauche. Oui. Ça va les curieux? Allez, au sommaire.
Christine and the Queens, selon le magazine Vanity Fair, c'est la française la plus influente à l'étranger. Destin hors norme, vous verrez.
Et puis on va vous raconter les dessous coquins et croustillants de l'histoire de France. Il sera question de bataillons de beauté, de petites claques sur les fesses, d'érotomanie et de shot piece.
Bah vous la gardez, hein, tout de suite l'histoire d'autres reines, celle de Christine and the Queens.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Selon le classement du magazine Vanity Fair, c'est la française la plus influente à l'étranger. Christine and the Queens est actuellement en tournée aux États-Unis. Elle est également numéro 1 des ventes en Angleterre. On vous raconte son histoire avec Stephen Bellery, journaliste musique sur RTL. Évidemment, très heureux de vous avoir dans notre studio de la curiosité. On a parfois tendance à exagérer le retentissement international des artistes français. Pour Christine and the Queens, on peut dire que c'est une réalité?
Ah, c'est une vraie réalité. Hein. Christine and the Queens est en train de réaliser ce que peu d'artistes font dans le monde entier, notamment sur les territoires anglophones, anglo-saxons, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, qui sont des territoires beaucoup plus compliqués pour les artistes français, évidemment. Beaucoup d'artistes français qui arrivent à faire carrière en Europe, notamment. Je pense à des artistes comme Zaz, Patricia Cass, jusqu'en Russie. Mais aller dans les territoires anglo-saxons qui ont une logique marketing très différente de ce qu'on a chez nous, une logique de marché de disques très différente de chez nous, c'est beaucoup plus compliqué.
Il y a quelques indices. Elle s'est retrouvée dans le magazine Time, je crois.
Évidemment,
c'est ça,
dans le dossier Next Generation Leaders qui était sorti le 17 octobre. Le magazine Time avait parié sur ces grands leaders d'opinion, ce qui est recoupé avec Vanity Fair d'ailleurs cette semaine. Elle est en train d'avoir un impact considérable dans ces pays-là, notamment en Angleterre, aux États-Unis, grâce aux talk-shows d'information où elle est invitée, où elle fait de véritables créations artistiques comme elle a pu faire chez nous sur scène, et donc ça tape dans les yeux de ce public-là. Rappelons juste une chose qui est très très importante, c'est que Christine and the Queens est parfaitement anglophone, donc c'est sa force à elle aussi, parce que souvent les artistes français ont du mal à s'exprimer et elle est excellente en interview en français, mais elle est excellente en interview en anglais, donc ça lui permet de grappiller des petites parts, des petites places dans les talk shows et d'être invité notamment dans des grands festivals comme Coachella, qui a été très très important pour son lancement de carrière aux États-Unis.
Et des talk shows comme par exemple le Tonight Show de Jimmy Fallon. Elle y interprète son titre, l'un de ses titres phares, Christine, en anglais.
Le Tonight Show de Jimmy Fallon, qui est un des shows les plus prisés aux États-Unis, évidemment énormément d'audience, une grande visibilité. Il était bluffé, Jimmy Fallon.
Ouais, Fallon.
C'est diffusé sur Canal, cette émission, donc
on peut la revoir en France.
J'ai pu la voir, oui.
Petite précision qui est importante, hein, Christine and the Queens a écrit l'intégralité de ses chansons en anglais au début. Hein. Elle revient de Londres, c'est dans sa création, donc ses chansons, elle ne les a pas traduites pour sa conquête internationale. Hein. Ça vient
c'est
d'elle.
C'est pas une opération de séduction.
Pas du tout. Hein. On lui a pas dit, par exemple, Stromae, on lui a proposé de faire carrière aux États-Unis, de sortir Racine Carré. Il y avait plusieurs stratégies. L'une d'elles était, par exemple, de réenregistrer tout l'album en anglais. Pour le coup, Christine, ses chansons, elles existaient en anglais, donc il n'y a pas de stratégie derrière de maison de disques, c'est vraiment très sincère.
Stephen Bellery, une autre manière aussi pour les artistes d'évoluer, de progresser à l'étranger, c'est quand par exemple des artistes américains vous adoubent et veulent chanter avec vous. Est-ce que c'est le cas pour Christine and the Queens?
Ça a été le cas pour Christine and the Queens. Avec beaucoup de, elle, sa stratégie, c'est vraiment ce qu'on appelle la culture underground. Il y a, voilà, comme le cinéma, il y a pour la musique une culture assez underground. Voilà, elle a réenregistré notamment un duo de Jonathan avec un artiste un peu complètement inconnu chez nous. Mais beaucoup de stars comme Madonna par exemple se sont intéressées au phénomène. Madonna l'a invitée sur scène à Paris-Bercy quand elle est venue à l'automne l'année dernière. Elle le fait dans chacune des villes où elle passe.
Elle est pas underground, Madonna, mais on refuse rien à Madonna, j'imagine.
Coup, et d'ailleurs Christine and the Queens a des goûts très très mainstream. Elle ne se cache pas, elle a cette image et cette force, et qu'elle peut faire à la fois l'ouverture de laissez-vous tenter sur RTL. Et la couve des Un Rock, Christine Nandoqueen, c'est la force de cet artiste. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ces grands écarts. Elle, elle fait, voilà, de Coachella, le festival branché à Los Angeles, à Madonna qui vous invite à danser sur scène à Paris-Bercy.
Alors, on va prendre le temps de raconter son histoire. C'est quoi son vrai nom et dans quel milieu social naît-elle?
Alors, elle s'appelle Héloïse Letissier. Elle est née en 88. Elle est hyper jeune, mais elle est tellement brillante et mature que c'est vrai qu'on a du mal à oublier cette jeunesse. Son père est prof de littérature anglaise à la fac. Sa mère est prof de français latin en collège. Elle a un grand frère. C'est important, son papa prof d'anglais, parce que c'est pour cette raison qu'elle va s'exiler à Londres il y a 6-7 ans de ça, en 2010. On pourra en reparler peut-être tout à l'heure.
Oui, on en reparle,
parce qu'elle connaissait Londres et donc elle est allée dans cette ville qu'elle connaissait. C'est important, et ce qui explique aussi sa maîtrise de la langue anglaise. En français, en France, on parle souvent très mal anglais. Ouais. Elle a une vraie connaissance de l'anglais qui est quelque chose de très important. Enfance très classique, elle m'en a parlé souvent. Enfance heureuse, de la danse classique à l'âge de 5 ans, mais alors elle s'amuse pas vraiment. Elle décide de faire du contemporain après. Mais c'est pas anodin dans son parcours, dans sa construction. C'est qu'il y a beaucoup de choses classiques au début, et elle va aimer casser les barrières, casser les codes après.
La petite Héloïse, Christine and the Queen, c'était une enfant sage qui dessinait des trucs étranges. Elle racontait sur RTL au micro de Cyprien Sini.
C'est vrai que vous étiez une enfant qu'on peut qualifier d'étrange.
Étrange, pas a priori. Enfin, c'était curieux parce que j'avais un côté très, très enfant sage. Par contre, j'écrivais et je dessinais des choses étranges. Mes parents étaient parfois assez inquiets parce que j'écrivais des nouvelles, par exemple, beaucoup. Et ça parlait souvent de mœurs ou de trucs assez affreux.
À quel âge?
À 8-9 ans. Non. Je pense que ma mère s'est demandé à un moment ce qu'elle avait raté ou non. J'espère pas qu'elle s'inquiète trop. Mais sur les dessins, c'était déjà des personnages un peu hybrides, qui étaient des mélanges d'animaux et d'hommes et de femmes. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que très jeune, je me suis enthousiasmée, à mon avis, pour Michael Jackson ou pour des créatures, quoi. Des David Bowie qui étaient sous Ziggy Stardust, voilà, des monstres. J'ai toujours aimé les monstres parce qu'aussi il y avait une poésie que je trouvais pas ailleurs.
Stephen Bellery, vous l'avez évidemment interviewé plusieurs fois. Elle aime ce jeu de l'interview.
Elle s'y prête très volontiers, d'autant qu'elle a beaucoup de choses à expliquer, parce qu'il y a beaucoup de mystère derrière son personnage. Et l'interview lui permet aussi de construire, de déconstruire son personnage, de l'expliquer, de le faire évoluer. Mm-hmm. Elle est excellente en interview. C'est des vrais moments avec elle, parce qu'on ne sait pas quoi enlever.
C'est rare. C'est bon signe.
Comment Héloïse Letissier va-t-elle devenir Christine and the Queen? C'est une rupture amoureuse qui va tout déclencher. On vous la raconte tout de suite sur RTL.
Belle attitude, de la patience comme certitude, collée à trois fils, fils, fils.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
Ça ne tient pas debout, sous mes pieds, le ciel revient.
RTL.
À 10-0 en Amazonie, je me balade à minuit.
La curiosité est un vilain défaut.
Bien sûr que oui, nous avons pleuré, qu'on s'épanche sous un ciel vide, intranquille.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Christine and the Queens, personnalité française la plus influente à l'étranger selon le magazine Vanity Fair. Mais comment la jeune Héloïse Letissier, qui est née à Nantes et a fait ses études à Lyon, est-elle devenue cette star internationale? C'est le récit de Stephen Bellery au micro de La Curiosité. Stephen, on disait tout à l'heure que c'est une rupture amoureuse qui a tout changé pour elle. Héloïse, c'est un peu l'histoire d'une jeune femme qui ne veut pas choisir entre les garçons et les filles.
On est en 2010, juste un petit rewind, quand même. Elle a un parcours brillantissime, Christine and the Queens. Donc elle fait le lycée Clémenceau à Nantes, Hippocagne, Cagnes, ENS, l'école normale supérieure à Lyon. C'est une tête, ça fait des années qu'elle se prépare à un futur métier d'ailleurs. Elle ne sait pas trop quoi, elle veut être metteur en scène d'ailleurs. Mais elle va retrouver ce travail-là parce qu'elle est devenue metteur en scène d'un projet artistique. On est en 2010, donc rupture amoureuse, c'est vrai. Ouvertement bisexuelle, Christine and the Queens. Elle veut en parler, elle en parle dans ses chansons, elle en parle dans ses interviews, parce qu'elle veut que justement ça ne soit pas quelque chose qui pose problème, que ce soit quelque chose de très très normal. Mais c'est important dans sa construction. Elle parle beaucoup du genre dans ses chansons, notamment de sexualité aussi. Et donc 2010, elle a une fin de cycle amoureuse, cette rupture, et puis elle va plus en cours, elle a plus le goût de rien. Elle décide donc de partir à Londres.
C'est
on
à
en parlait tout
oui.
à l'heure. Elle prend son sac, elle va à Londres, elle veut prendre des vacances de tout, c'est ce qu'elle m'avait dit, cette expression. Elle est assez introvertie à cette époque, et en fait elle se dit, j'ai envie de sortir le soir pour me mettre en danger. Waouh, c'est une folie, je vais juste aller boire un verre ou quoi que ce soit. Mais pour elle, c'est véritablement une folie, et elle découvre un club qui s'appelle Madame Jojo's, dans lequel il y a des
des drag queens.
Des drag queens, qu'elle va appeler donc ses queens. Et elle a cette formule, elle me disait, Christine Anne de Queens, quand je suis entrée là-dedans, j'ai rencontré des personnages qui ont réussi à se construire avec leur souffrance personnelle. Et elle voit que la souffrance peut créer de l'art, que la souffrance peut créer eh bien, de l'exutoire, peut créer de la suite, peut créer de l'avenir. Et donc, elle qui n'était pas une fan de musique. Hein. La musique était une souffrance pour elle. Cette expression, elle avait eu...
Parce qu'elle avait appris la musique aussi. On a parlé de la danse.
Elle a fait du piano pendant des années, mais c'était une vraie souffrance pour elle. Elle déteste sa voix à ce moment-là, par exemple. Elle la déteste, sa voix chantée. Elle a une vraie aversion pour elle. Et c'est pour ça qu'elle construit des chansons patchwork, bizarre, parce qu'elle veut mettre en danger sa voix et exploiter les faiblesses de sa voix et les particularités de sa voix d'ailleurs.
Elle va d'ailleurs faire écouter sa voix à ses nouvelles amies, à ses drag queens.
Exactement,
c'est ça,
et c'est vraiment ces drag queens qui la poussent à faire de la musique. C'est pour ça qu'elle a choisi ce pseudo, Christine and the Queens. C'est un hommage à ces personnes. Ça va très très vite dans sa tête. Elle reste 2-3 semaines à Londres, elle rentre à Paris, elle achète un ordinateur, elle achète le logiciel GarageBand et elle commence à créer de la musique tout de suite.
Et la première chanson, c'est Hit.
Toute première chanson de Christine and the Queens, qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson, Steven
Berry? C'est le morceau d'ouverture de l'album, carrément, de Chaleur humaine. Ouais. I'm a man now, c'est une chanson sur le genre, en fait, sur la bisexualité. C'est important de le dire directement. Elle s'est construite grâce à ses queens et donc elle veut le crier haut et fort. Elle s'assume peut-être aussi plus dans sa vie personnelle, elle assume peut-être sa sexualité, hein. Elle est hyper jeune. Il y a quelque chose d'important, c'est qu'elle dit que la quand elle réalise tout ça, c'est vraiment une renaissance pour elle. Elle s'est construit une armure. Elle se construit donc cet alias, ce pseudonyme, ce personnage qui s'appelle Christine and the Queens. Donc Christine, en fait, c'est un prénom qu'elle utilisait souvent pour dire machin. Ah, j'ai oublié comment vous appelez là, Thomas. Ça, c'est Christine.
Elle les appelait Christine.
Christine, voilà, c'est comme ça qu'elle a l'idée de ce pseudonyme. Et donc, c'est vraiment fulgurant la manière dont tout ce qu'il y avait de refoulé en elle depuis ces années, son dégoût de la musique, de l'écriture, de l'art, de la mise en scène qu'elle n'osait pas. Ben, tout remonte à la surface très très vite.
Ouais, ce qui est bluffant, c'est une forme de maturité, alors qu'on l'a dit, elle est très jeune, elle a 28 ans aujourd'hui, donc quand elle écrit ses premières chansons, elle a une vingtaine d'années. Comment elle se fait repérer?
Alors, parcours par la scène. C'est la scène qui va la faire émerger. Mmh. Elle est repérée notamment, premièrement, par un producteur qui s'appelle Marc Lombroso, par un concours qui est lancé par l'hebdomadaire Les Inrocuptibles. Ouais. Voilà. Et puis, elle va faire le Printemps de Bourges, où elle va avoir le prix Découverte, les chantiers franco, les francopholies. Mmh. Donc, elle vient vraiment de ces petits circuits, de la scène où elle va se construire, où elle va mettre en œuvre ce personnage avant vraiment... Elle n'arrive pas avec un album tout fait dans une maison de disques en disant « Voilà, j'ai ça, qu'est-ce que vous voulez en faire ?» Cette construction artistique...
D'ailleurs, les maisons de disques, pardon, je vous interromps, elles sont plutôt réticentes au début.
Ouais, assez frileux. C'est vraiment une rencontre avec le label Bicose, avec Emmanuel de Burtel. Elle va prendre vraiment beaucoup de temps à la création de cet album. Emmanuel de Burtel est persuadé qu'il faut qu'elle mette du français dans ses chansons, qu'elle adapte son projet au territoire français. Évidemment, c'est dur de conquérir un territoire comme la France en ne chantant qu'en anglais. Et c'est sa force à Christine, c'est qu'il y ait aussi les deux langues et qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas une partie de ses chansons.
On en reparlera. En mars 2011, Christine and the Queens sort un premier EP. Alors un EP, c'est un mini disque avec 5 titres, avec notamment Narcissus is Back. I cry a thousand more mirrors so that your eyes can get brighter.
J'ai eu la chance de voir Christine and the Queens au Francopholie à La Rochelle. Et ce qui m'a bluffé, c'est que chaque chanson est un tableau. C'est-à-dire que visuellement, c'est une création. Chaque chanson est une création visuelle. C'est vrai aussi de ses clips, Steven Bellery.
La force absolue de Christine and the Queens, c'est que c'est un projet global à 360 degrés. Elle a tout compris dès le début. Elle s'est adjointe les services d'une chorégraphe, Marion Motin, qui a travaillé avec Madonna d'ailleurs, qui a travaillé avec Stromae. Elle a travaillé le visuel jusqu'à son look où elle porte des costumes d'hommes, petits, courts, telles chaussures. Elle a penser les moindres détails de son projet. Ça, c'est sa grande force. Rien n'est laissé au hasard. Elle est même une hystérique, une contrôle fric, comme elle dit. Elle est auteur, compositeur, interprète, productrice, arrangeuse. Voilà, elle me dit qu'elle s'était prise la tête, qu'elle s'était fait même de l'eczéma en studio tellement elle voulait aller au bout de son projet et ne rien laisser aux autres. Donc, c'est très compliqué d'imposer tout ça quand on est une première artiste, premier clip.
C'est vrai de ses clips aussi, Steven Bellery.
Évidemment, elle a la mainmise totale. Elle sait absolument ce qu'elle veut faire. Elle a travaillé main dans la main avec Marion Motin, qui est vraiment un personnage important dans son succès, dans la construction de son succès. Le visuel fait partie intégrante de son projet.
Christine and the Queens qui va faire sa première apparition télé dans l'émission Taratata sur France 2. Elle chante Cripple.
I miss my mother to tell me how. I miss my desire to tell me why. I miss them for being white and brave.
Comment réagit Nagui?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
I miss my seulement ici. Parce qu'ailleurs je ne t'appartiens pas.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Christine and the Queens, la personnalité française la plus influente à l'étranger. C'est ce que le magazine Vanity Fair a décidé. Et c'est ce qui nous a donné envie de raconter son histoire dans la curiosité grâce à Steven Bellery qui nous sert de guide. Première télé, ça se déroule sur France 2. On est en février 2011 et Christine and the Queens chante Cripple.
I miss my mother to tell me how. I miss my desire to tell me why.
Vous voyez, toutes les chansons sont en anglais.
Mais oui, on est vraiment sur la première génération, on va dire, des titres. Ça se passe comment, Steven?
Pas très bien. Elle est assez stressée, elle est tout en haut d'un escalier, elle a un serre-tête bizarre sur la tête.
Oui, on dirait des bois
de serre, c'est moche, elle n'est pas à l'aise, son personnage n'est pas encore abouti, elle danse pas, elle ne sait pas quoi faire de son corps. Et d'ailleurs, Nagui a cette phrase terrible en sortant de cette prestation en disant « c'était Christine and the Queens pour la première et la dernière fois sur le plateau de Taratata ». C'est violent.
C'est un peu violent,
tout le monde a le droit de se tromper, évidemment.
Mais oui.
Elle va revenir, elle va revenir plus forte et elle va revenir avec de vraies scénographies pour ces moments live. C'est ce qui va être le moment bluffant de sa carrière. Aux Victoires de la Musique, quelques mois après, son album n'est pas encore sorti et elle va bluffer tout le monde avec une prestation live. On se demande c'est qui cette fille, et puis elle va gagner des victoires dans les mois et dans les prochaines cérémonies.
Ce qui est bluffant, on ne connaît pas tous Christine and the Queens, mais quand on ne connaît pas, moi je me dis Christine and the Queens, ça ne ressemble à rien d'autre. Je ne peux même pas vous dire quelles sont ses influences, tellement c'est neuf.
Elle a des influences très très diverses. Ça va de Michael Jackson, qui est vraiment son mentor absolu, qu'elle découvre grâce à la tournée Dangerous en 92. L'album Bad, c'est l'album magique de sa discographie qui est sorti en 87. Ça a été un électrochoc pour elle. Pourquoi elle aime Michael Jackson? Parce que c'est une œuvre globale. On en parlait tout à l'heure. Elle dit, Christine and the Queens, qu'elle est fascinée autant par le personnage et sa démesure que par l'œuvre immense qu'il a laissée, par ce contrôle absolu de tout ce qu'il avait, de la chorégraphie jusqu'à ses clips absolument incroyables qu'il a laissés dans l'histoire de la musique. Donc elle est fascinée par Michael Jackson, mais elle aime aussi Alain Bashung pour la bizarrerie des mots. Ça, c'est très important. On en parlera peut-être tout à l'heure de la manière dont elle écrit. Elle adore aussi Phil Collins. Elle m'avait dit lors d'une série d'été sur RTL que la chanson qu'elle aurait rêvé écrire et chanter, c'est In the Air Tonight de Phil Collins. Donc elle aime aussi des choses très mainstream parce qu'elle aime les sons, elle aime bidouiller, elle aime aussi tout ça. Elle aime faire des chansons qui peuvent toucher un grand public. Son envie, c'est pas de faire de la musique ultra de niche. Elle pensait pas avoir ce succès, mais elle voulait faire des chansons qui touchent. Ça, c'est important dans sa construction artistique.
Steven Bellery, vous parlez de son amour des mots. Moi, j'aime beaucoup Christine and the Queens. Je crois qu'avec Stromae aujourd'hui, c'est vraiment les deux chanteurs que je préfère. Mais quand même, il faut dire un mais, elle articule pas beaucoup, Christine and the Queens, quand même.
On comprend pas tout.
Souvent, on comprend pas les mots qu'elle a choisis.
Oui, ou même quand on comprend ou quand on lit les paroles, on comprend rien non plus. Parce qu'elle aime ce mystère, elle aime jouer avec les mots. Elle a cette formule, parce que je lui avais demandé, mais pourquoi on comprend rien à vos chansons? Et elle m'avait dit, je veux laisser de la place à l'autre. En fait, elle veut que le sens ne soit pas arrêté pour qu'on puisse vieillir et s'emparer d'une chanson pendant toute sa vie.
Et du coup, on chante ce qui nous passe par la tête, c'est
elle
ça
avait, elle, bah, par exemple, où elle me citait La Nuit, je mens de Bachung en me disant il y a plusieurs niveaux de lecture par rapport au moment où on se situe dans notre vie, dans notre expérience de la vie. Elle veut laisser de la place. Alors, elle a expliqué, hein, elle a décodé certaines de ses chansons. Je pense à Saint-Claude, par exemple, si vous voulez qu'on en parle de cette chanson, où elle dit « Here's my station ».
Alors, on écoute un extrait.
Pas trois fil fil fil, les pas trois fil fil fil. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire pire, que tu respires, pire pire. Partenaire, cette ville n'offre rien.
Ce ne sont pas les mots qui comptent là, en fait, dans cette chanson Saint-Claude, c'est les sons, c'est les butées que créent les lettres.
Aussi, mais les mots sont importants également. En fait, cette chanson, elle l'a écrite en quelques minutes à peine. Saint-Claude, c'est un arrêt de bus dans le Marais, donc c'est le centre de Paris pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un arrêt de bus qui s'appelle Saint-Claude tout simplement. Elle sait un samedi très très tard dans la nuit, elle revient d'une soirée et elle assiste à une scène de moquerie collective. Il y a un jeune homme bigarré, un peu bizarre, un peu efféminé qui est devant le bus et tout le monde commence à se moquer de lui, de son apparence, de ce qu'il est. Et elle se sent totalement impuissante, elle ne réagit pas et elle se dit en sortant du bus, Christine aurait réagi.
J'ai rien fait, ouais.
Christine aurait réagi à ce que j'ai assisté, à ce que j'ai vu. Ouais. Et elle a écrit cette chanson en réaction et... voilà, elle s'est sentie impuissante. C'est la, voilà, ce personnage est très fort et lui permet de faire et de dire des choses qu'Héloïse Letissier n'oserait pas faire, n'oserait pas dire. Certaines de ses chansons comme ça sont des réactions très fortes à des moments qu'elle a vécu dans sa vie.
Donc ça, c'est la première chanson, si je ne me trompe, de son premier album, hein, qui s'appelle Chaleur humaine. On rappelle quelques récompenses obtenues pour ce premier album.
4 victoires de la musique, 2 en 2015, 2 en 2016. C'est très important parce qu'elle a eu d'abord la victoire de l'artiste interprète féminine, donc ça c'est une des victoires les plus prestigieuses. Mais ce qui valide toute sa stratégie, tout son travail, c'est qu'elle a des victoires également de vidéoclips deux fois pour Christine et Saint-Claude, ce qui montre son formidable travail visuel, et un pour celle du spectacle musical, on en parlait, ce qui montre l'étendue, c'est-à-dire que son projet à 360 degrés a été validé, a été adoubé par la profession, à la fois ses qualités d'auteur, compositeur, interprète et celle de réalisatrice de clips, de chorégraphe, de showgirl sur scène et cette longue tournée qu'elle a eue. 650 000 exemplaires vendus en France de son album. C'est un chiffre très rare dans l'industrie du disque aujourd'hui.
Il y a un album à venir ?
Alors elle travaille.
Dites-nous oui.
Oui, elle travaille. Je l'ai croisée il y a quelques mois et je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous allez faire, Christine ? Est-ce que vous allez essayer de conquérir les territoires américains et anglo-saxons avec ce premier album ou vous allez sortir un deuxième disque ?» Je pense qu'elle va tenter sa chance, on le voit, avec cette tournée qui dure aux États-Unis. Elle a déjà plein de chansons, elle sait ce qu'elle veut faire. Christine va vieillir avec elle, elle ne va pas tuer Christine comme David Bowie a pu tuer Ziggy Stardust. Elle veut vivre avec ce personnage tout au long de sa carrière.
Et dans un instant, voix chaude, l'histoire de France à travers le petit trou de la serrure.
Je peux voir, je peux voir.